Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Le projet de loi bioéthique arrive dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale ce mardi. Débat à haut risque, voilà ce que dit Emmanuel Macron. Même si l'opposition à droite se fait plutôt discrète, vous l'entendrez.
Nous irons ensuite à New York, où l'Assemblée générale de l'ONU se poursuit. Emmanuel Macron joue les médiateurs entre les présidents américains et iraniens. Il les rencontre, mais séparément.
À Cuba, le gouvernement autorise aujourd'hui les artistes indépendants du cinéma. Mais quel changement et surtout quelles avancées faut-il encore espérer? Nous rejoindrons notre correspondante.
Et dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur les changements de l'assurance chômage. L'UNEDIC les présente officiellement aujourd'hui.
Et puis nous nous rendrons au musée du Quai Branly à Paris, à l'aube d'une exposition intitulée « 20 ans d'acquisition ». À l'heure de possibles restitutions d'œuvres d'art, son titre interroge. Le débat annoncé sulfureux va durer 2 semaines et il commence aujourd'hui. À l'Assemblée nationale, les députés vont examiner le projet de loi de révision des lois de bioéthique. Il prévoit notamment la levée de l'anonymat pour les donneurs de sperme et l'autorisation de la PMA, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes. Des mesures débattues depuis longtemps dans la société et finalement dans l'hémicycle de l'Assemblée, il pourrait être moins enflammé que prévu ce débat, Stéphane Robert.
Attention, c'est le texte de tous les dangers, a dit Emmanuel Macron aux députés de la majorité réunis pour la rentrée il y a 10 jours au ministère des Relations avec le Parlement. Mais les députés, eux, sont plutôt confiants. À l'image du député La République En Marche de l'Isère, Olivier Véran, au micro de Rosalie Lafarge, il n'y aura pas, selon lui, d'hystérisation des débats.
Vous avez des députés de l'opposition qui sont contre la PMA. Honnêtement, les relations de travail ont été excellentes en commission. Moi, j'ai vécu le mariage pour tous, ça n'avait rien à voir. Mais je crois que le débat sur la question de la PMA a été soldé en grande partie par le débat sur le mariage pour tous.
Quand on questionne l'opposition, en l'occurrence à droite le député Les Républicains de la Manche, Philippe Gosselin, on peut constater qu'il n'y a pas la volonté d'en découdre politiquement avec la majorité, contrairement à ce qui s'est passé il y a 6 ans.
La composition de l'Assemblée n'est pas tout à fait la même, c'est évident. L'état de l'opinion publique n'est pas non plus le même. Donc il ne s'agit pas de refaire le match au retour du mariage pour tous.
Pour le premier secrétaire du Parti Socialiste et député de Seine-et-Marne, Olivier Faure, ça s'explique par le fait que depuis, la société française a évolué sur l'extension à toutes les femmes de la procréation médicalement assistée.
L'étape du mariage pour tous, après le PACS, a été un pas supplémentaire dans l'acceptation qu'en France, les familles ne sont pas sur un modèle unique et qu'il y a des familles homoparentales. Et je crois que finalement, tout le monde finit par admettre qu'aujourd'hui, il y a différentes façons de faire famille.
Les discussions pourraient malgré tout être animées, du fait notamment que l'Académie de médecine a émis des réserves sur la PMA le week-end dernier, estimant que la conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure.
Et les débats débuteront donc en milieu d'après-midi tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Pendant ce temps, en Italie, un autre débat sociétal agite l'opinion. La Cour constitutionnelle doit se saisir aujourd'hui de la question du suicide assisté. Il est aujourd'hui illégal en Italie, mais il a de vrais défenseurs. Rencontre à Rome avec l'une d'entre eux, grâce à notre correspondant Bruce de Galzin.
Mina Welby a perdu son mari il y a 13 ans. Pierre Luigi Welby militait pour le droit à mourir et a été jusqu'au bout débranché par son médecin. Sa femme poursuit son combat. Il y a 2 ans, elle a accompagné un homme atteint de sclérose en plaques en Suisse où le suicide assisté est autorisé.
Je n'étais pas joyeuse quand je suis partie avec lui. Mais en le voyant sourire et heureux, je me suis dit, moi qui suis catholique, je suis croyante, il est juste que je l'accompagne.
L'Église s'oppose à l'euthanasie et au suicide assisté. Le pape vient opportunément de le redire devant l'ordre des médecins italiens. Mais pour l'ancien député européen Marco Cappato, poursuit pour avoir aidé au suicide, ce n'est plus l'Église le problème.
Il y a un sondage chaque année dans le nord-est du pays qui dit que 78 des électeurs de la Ligue sont en faveur. Alors évidemment, c'est difficile pour un parti politique de tenir publiquement une position contre son propre électorat. La seule solution, c'est d'obtenir qu'on n'en discute pas.
Certains chefs de parti veulent en effet éviter le débat. Les Italiens, eux, sont opposés à l'euthanasie pour les malades incurables, mais largement favorable lorsque la souffrance est extrême.
Voici maintenant la nouvelle offensive de la militante Greta Thunberg. Avec 15 autres jeunes, elle porte plainte contre 5 pays qualifiés de pollueurs, d'inactifs en matière de lutte climatique. Il s'agit de l'Argentine, du Brésil, de la Turquie, de l'Allemagne et de la France. La plainte est déposée devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU. Emmanuel Macron, lui, avant son arrivée à New York pour l'Assemblée générale de l'ONU hier et un sommet consacré au climat. Avant cela, Emmanuel Macron conseillait aux jeunes justement d'aller manifester, oui, mais en Pologne, qu'ils n'arrivent pas à faire évoluer. Voilà ce que dit le président français. Varsovie n'a pas tardé à réagir et rappelle au président qu'en France, la crise des gilets jaunes a débuté après la hausse d'une taxe environnementale. Les pays de l'Est sont-ils des boucs émissaires? Frédéric Seyss posera la question dans son billet politique, ce sera après ce journal. Emmanuel Macron, qui veut être sur tous les fronts, il joue les médiateurs entre les États-Unis et l'Iran dans la crise du Golfe. Ainsi, hier, lors de son arrivée à New York, et avant de parler du climat, il a vu le président iranien Christian Cheneau.
La rencontre s'est déroulée dans un salon au 28e étage d'un palace new-yorkais à côté de l'ONU. Emmanuel Macron et Hassan Rouhani se connaissent bien, ils se parlent régulièrement au téléphone. Leur entretien a duré 2 heures. Emmanuel Macron a exhorté l'Iran à prendre le chemin de la désescalade et proposé de travailler sur la sécurité régionale, notamment la question du détroit d'Hormuz. Plus tôt dans la journée, le président français avait précisé les objectifs de sa médiation.
Vous savez le travail que conduit la France depuis des mois, qui est un travail consistant à essayer de bâtir des propositions pour éviter l'escalade. Nous avons besoin maintenant, avec nos alliés, l'ensemble des partenaires régionaux et l'Iran, de nous mettre autour de la table avec un agenda commun. Et donc, je ferai tout pour que les conditions de discussion se créent, qui se fassent à la fois pour qu'il n'y ait aucune escalade et qu'on construise une solution utile, durable pour la sécurité dans la région.
Entre les foucades de Donald Trump et l'intransigeance des Iraniens, la marge de manœuvre d'Emmanuel Macron est étroite. S'il n'y a pas d'éclaircie à New York, prévient un diplomate iranien, nous allons entrer dans une période de grande tension. Dans ce contexte, la déclaration commune de la France, du Royaume-Uni et de l'Allemagne, pays signataires de l'accord nucléaire de Vienne, qui impute les attaques contre les sites pétroliers saoudiens à l'Iran, met un peu plus Téhéran sous pression internationale.
Et l'on attend aujourd'hui le discours de Donald Trump à la tribune de l'ONU. Il y exposera sans doute sa stratégie face à l'Iran, justement. Le bilan des arrestations en Égypte depuis vendredi a doublé finalement. Plus de 500 personnes ont été interpellées lors de rassemblements interdits contre le président égyptien Abdel Fattah Al-Sisi. Un appel global à manifester est lancé pour vendredi prochain. Il n'est pas question de manifester à Cuba où, malgré la fin du castrisme, le gouvernement tient toujours fermement les rênes du pays. Peu à peu, il donne des signes d'ouverture, réécrivant la constitution à Cuba, libéralisant certaines professions. Aujourd'hui, il autorise la production cinématographique indépendante. La création sera-t-elle libre pour autant à Cuba? Pas sûr lorsque l'on écoute ce reportage de notre correspondante Domitille Piron.
Le producteur de cinéma devient officiellement travailleur du secteur privé à Cuba. Le débat autour des indépendants aura duré plus d'une décennie et aboutit aujourd'hui à un statut légal avec une inscription obligatoire des professionnels indépendants au registre officiel, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire pour un film et l'accès à un fonds de soutien du cinéma cubain. Mais le montant de cette enveloppe reste inconnu comme les membres du comité de sélection. Le célèbre acteur de fraises et chocolat, Jorge Perugoria, qui a joué autant de films officiels qu'indépendant, se réjouit de cette nouvelle mesure.
Le cinéma indépendant à Cuba était un fait, une réalité, mais il n'entrait pas dans un cadre légal et juridique. Tout le monde faisait des films en dehors de la loi. Donc c'est une première étape pour rendre légal ce qui se faisait depuis des années. Il y a toujours eu une complicité d'une manière ou d'une autre avec l'institution, notamment pour ce qui était des autorisations de tournage. Tu pouvais faire ton film, mais rien ne te garantissait de pouvoir le diffuser.
La diffusion des films reste sous contrôle de l'État à travers l'ICA, Institut cubain de l'art et l'industrie cinématographique. Alors pour certains, comme la productrice Claudia Calvino, ce décret ne résout pas une question fondamentale. Elle a produit les films de Carlos Lechuga, dont le dernier Santa y Andrés a été censuré à Cuba.
C'est un autre débat qu'il faut ouvrir sur la liberté de création et l'expression libre de l'art et peut-être même au-delà.
Ce décret est considéré de fait comme le préambule d'une nouvelle loi sur le cinéma à Cuba, dont la dernière date de 1959.
C'était Domitille Piron depuis la Havane.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La CGT appelle à manifester ce mardi contre la réforme des retraites.
Ah oui, dans le sillage des avocats, des médecins, des pilotes, des infirmières et des cheminots. Le syndicat est rejoint par Solidaire, la FSU, l'UNSA Ferroviaire, l'UNEF et l'UNEL. Nous en parlons dans les matins de France Culture avec notre invité Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Et justement, monsieur Martinez, une question pour vous ce matin, non pas sur les retraites, sujet largement abordé précédemment, mais sur une autre réforme, celle de l'assurance chômage. L'UNEDIC présente aujourd'hui les nouvelles règles qui s'appliqueront par étapes à partir du 1er novembre. Nous faisons d'abord le point avec Catherine Pétillon.
Pour plus de 40% des personnes susceptibles de s'inscrire au chômage, la réforme aura des répercussions négatives, estime l'UNEDIC. Rappelons que les règles pour bénéficier de l'assurance chômage seront plus strictes. Dès le 1er novembre, il faudra avoir travaillé 6 mois sur les 24 précédents, contre 4 mois sur 28 aujourd'hui. Dans la même logique, il faudra avoir travaillé 6 fois plus longtemps qu'aujourd'hui pour recharger ses droits. Il sera donc plus dur d'être indemnisé. Ces nouveaux critères toucheront un tiers des nouveaux entrants, estime l'UNEDIC, soit parce qu'ils n'ouvriront pas de droits du tout ou alors mettront plus de temps à le faire, soit parce qu'ils seront indemnisés moins longtemps. Autre grand changement, le niveau de l'indemnisation, en particulier pour les personnes qui ne travaillent que quelques jours ou heures par mois. Lors de la première année d'application de la réforme, cela aura un impact pour 37% des nouveaux entrants dans le régime. Enfin, la dégressivité des allocations pour les salariés les mieux payés s'appliquera progressivement. À partir de fin 2020, entre 1000 et 2000 nouveaux allocataires seront touchés. Autant de mesures qui devraient permettre 3,4 milliards d'économies pour la période 2020-2021. Cette évaluation de l'UNEDIC n'est pas au goût du ministère du Travail, où on estime que ne sont pas pris les effets de comportement. Le gouvernement fait en effet le pari que les nouvelles règles sont plus incitatives au retour à l'emploi, une réserve à laquelle répond l'étude elle-même, soulignant la difficulté de mesurer de tels effets éventuels. Rue de Grenelle, on compte aussi sur les futurs effets de l'accompagnement des chômeurs.
Philippe Martinez, 40% des chômeurs touchés de manière négative par cette réforme. Cela n'illustre-t-il pas votre échec, en tout cas celui des partenaires sociaux, puisque le texte est le résultat d'une reprise en main par le gouvernement au printemps dernier ?
Non, c'est pas du tout un échec, c'est la confirmation de ce qu'on disait. Je précise que c'est 40% des nouveaux entrants, c'est-à-dire que ça va réduire les droits. C'est pas du tout, je peux vous relire ou vous redire ce qu'on a dit. Le gouvernement nous a fixé un cadre dans la négociation de l'assurance chômage. Faire des économies, on en parlait tout à l'heure. Presque 4 milliards d'économies.
Vous l'avez refusé.
On a dit on peut pas. Enfin, je suis pas un spécialiste de mathématiques, mais quand on essaie de résoudre un problème mathématique, on donne pas la solution et on vous demande pas de faire l'hypothèse avant. On vous donne les hypothèses et après on trouve une solution. Le gouvernement dit il faut faire 4 milliards d'économies, débrouillez-vous. Évidemment, on n'était pas d'accord pour faire des économies sur le dos des chômeurs et on a fait d'autres propositions. Ça, c'est la logique du gouvernement de dire les chômeurs sont des privilégiés encore. Encore d'autres, parce qu'ils sont payés à rien faire. Je vous rappelle qu'un chômeur sur deux ne touche pas d'indemnité.
Ça veut dire quoi, un chômeur sur deux ne touche pas d'indemnité ? Il y a des chômeurs qui sont hors de la période d'indemnisation, il y a des chômeurs en période de carence.
Non, ils touchent zéro. Ils n'ont pas de travail et ils touchent zéro. Les jeunes, par exemple, en recherche de premier emploi, ils ne touchent rien. On les laisse tomber, on ne s'occupe pas d'eux. Vous savez que ça coûte cher de rechercher un emploi. Donc il faut, là aussi...
Bien entendu, mais je voulais comprendre en fait de qui était constituée cette moitié...
Les chômeurs en fin de droit, ceux qui sont radiés parce qu'ils ont eu des problèmes, c'est tout ça. Un sur deux ne touche rien. Et donc, avec cette réforme, on va accentuer ceux qui vont être exclus, ceux qui vont toucher encore moins que ce qu'ils ne touchent aujourd'hui, mais ça va être bon pour les chiffres.
Et les syndicats n'avaient aucune prise pour changer cette réforme en amont.
Mais le gouvernement n'a pas voulu. Le gouvernement n'a pas voulu. Notre mission, si vous permettez l'expression, ça me gêne, c'était d'économiser 4 milliards. Voilà, point. Donc le gouvernement a dit, vous voulez pas économiser 4 milliards, d'ailleurs tous les syndicats sont contre, eh bien on reprend la main. C'est une façon de une nouvelle fois, de culpabiliser ceux qui n'ont rien et on oppose les chômeurs au reste des salariés.
Merci Philippe Martinez pour votre réponse. Nous vous retrouvons dans une petite dizaine de minutes aux côtés de Guillaume Erner pour poursuivre le débat. D'ici là, nous poursuivons ce journal d'actualité et notons le malaise agricole dénoncé hier soir dans la rue. Quelques centaines d'agriculteurs ont lancé des actions feu de colère un peu partout en France à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils dénoncent les attaques quotidiennes qu'ils subissent à cause de leurs pratiques agricoles ainsi que le manque de reconnaissance de leur profession. L'ancien garde des Sceaux Jean-Jacques Urvoas est jugé à partir d'aujourd'hui pour violation du secret professionnel. Il est accusé d'avoir informé illégalement le député Thierry Solaire d'une enquête préliminaire pour fraude fiscale qui le concernait. C'était au printemps 2017. Penchons-nous à présent sur le titre d'une exposition qui débute aujourd'hui au musée du Quai Branly Jacques Chirac à Paris. Elle s'intitule « 20 ans d'acquisition », titre qui peut paraître glissant au regard de la polémique sur la restitution des biens culturels africains et l'attente toujours de certains pays, notamment le Bénin, pour recevoir des œuvres spoliées, pillées. Contexte épineux donc pour une expo sur les acquisitions. Cécile de Kervazdoué a rencontré le responsable du musée.
Donc on a ici rassemblé et chassé, j'allais dire, ces objets qui sont des jalons aussi d'une histoire de l'art.
Jusqu'au 26 janvier, le musée du Quai Branly a choisi d'exposer 500 œuvres iconiques parmi les 78 000 pièces qu'il a acquises depuis 20 ans. Certaines ont été achetées, mais 60% de ces pièces proviennent surtout de dons. Et toutes passent par des commissions scientifiques de vérification. De quoi faire taire les polémiques, espère Yves Le Fur, le directeur du musée du Quai Branly.
Il ne faut pas généraliser. On ne peut pas déclarer que tous les objets dans les musées seraient pillés. Le travail que les conservateurs font, c'est un travail scientifique rigoureux pour étudier des cas qui seraient illégitimes.
D'où l'accent mis ces 20 dernières années sur l'acquisition d'archives qui permettent de faire la lumière sur l'origine des pièces. Car le musée du Quai Branly a hérité des collections du musée de l'Homme et du musée d'Afrique et d'Océanie. En tout, plus de 300 000 objets, dont un grand nombre provient de l'époque coloniale et qui sont aujourd'hui réclamés par plusieurs États africains. Mais la restitution sèche n'est peut-être pas la bonne solution, explique Vincent Négri, chercheur au CNRS et contributeur du rapport Sarre-Savoie.
La restitution est encore un acte de domination. Il y en a un qui décide de restituer ou qui décide de ne pas restituer. Et il vaudrait mieux penser la question de restitution de manière symétrique, se dire, ben voilà, celui effectivement qui restitue propose quelque chose en échange à celui qui provoque le mouvement de restitution. Pourquoi ne pas faire un co-commissariat avec un conservateur africain et faire en sorte que l'exposition puisse circuler? Et vous voyez bien qu'à partir de là, on rebâtit un modèle.
Un modèle bilatéral plus éthique, très attendu aujourd'hui par de nombreux directeurs de musées régionaux en France.
C'était Cécile de Kervazdoué. Un mot encore de ce tableau découvert par hasard dans une maison de Compiègne dans l'Oise. Un tableau expertisé comme étant une œuvre du grand peintre primitif italien Cimabue datant du XIIIe siècle. Estimé 4 à 6 millions d'euros, il sera mis aux enchères. Le temps de ce mardi en France métropolitaine, il sera pluvieux et venteux. Seul l'extrême sud de la côte méditerranéenne sera au sec aujourd'hui. Et ce matin, comptez 15 degrés à Strasbourg et Lyon, 16 à Paris, 18 degrés à Rennes et Bordeaux, 23 degrés à Nice.
Mais merci Clara Lecoq-Réal, il est 8h17 sur France Culture.